Alors, la première question que vous me posiez, c'était sur les questions d'éthique par rapport aux proches. Et le concept pour nous qui s'impose, en tous les cas en termes d'éthique, c'est la notion de juste présence. C'est-à-dire quelle est la justesse d'une présence et de juste position. Comment prendre position quand on est proche. Donc ma partie introductive, qui sera vraiment de quelques instants, c'est quasiment des vignettes, mais qui ne sont pas cliniques, qui sont des vignettes éthiques. C'est autour de la juste position et de la juste présence. Comment maintenir une présence? Quelle est la nature de cette présence? Quelle est la nature de cette proximité? Tout en considérant que le proche doit pouvoir aussi s'épargner le pire et survivre à la relation. Parce que vous avez des gens qui s'altèrent totalement dans une relation de trop grande proximité, avec le sentiment qu'il faut tout faire, qu'ils peuvent tout faire, ce qui est tout à fait impossible. Donc l'approche éthique de la notion d'entourage, puisque c'était vous parliez d'entourage et pas directement de proche, incite à une nécessaire réflexion portant sur la position, le rôle, la fonction des proches auprès de la personne malade, avec une évolutivité dans la maladie et des caractéristiques selon les pathologies. Il apparaît d'emblée que l'entourage ne bénéficie qu'en de rares circonstances d'une attention susceptible de définir les conditions d'une intervention souvent délicate et douloureuse. Faute de les analyser, on idéalise trop facilement les missions des proches, considérant qu'il s'agirait là d'une implication naturelle ou d'une obligation morale. Je ne vais pas développer, mais on verra dans notre discussion, cette injonction, effectivement, que peut éprouver la personne qui n'a pas le choix. Il faut absolument ne pas abandonner, c'est le devoir de bonheur à l'abandon, mais il ne faut pas s'abandonner non plus soi-même. Donc je parlerai aussi de la dimension politique, pour qu'il y ait des proches, il faut qu'il y ait aussi une société soutenante et une certaine solidarité qui permet aux proches d'être proches et d'avoir eux-mêmes des proches. Alors que souvent l'expérience de la maladie, c'est la désertification. C'est-à-dire on se trouve souvent très solitaire et très démuni. Et avec des ambivalences, et on l'a bien vu dans nos observations, le proche est très pudique, il ne dira peut-être pas lors de la consultation au malade ce qu'il éprouve lui-même. On voit, il y a des études qui ont été faites, quand le généraliste, le médecin de ville, vient à domicile, le proche parlera rarement de ses propres maux. Donc le médecin généraliste un petit peu compétent et qui a une certaine forme de sollicitude, c'est lui qui ira à l'avant, mais la personne n'ose plus faire valoir ses propres intérêts face à la maladie grave de son proche. Donc c'est tout un ensemble d'éléments à prendre en considération dans la bonne présence et dans la juste proximité. Plus il y a beaucoup de proches et même de personnes malades, vous savez, qui cherchent à vous épargner en tant que professionnel de santé, ne veulent pas vous faire davantage de mal et ne veulent surtout pas que vous les abandonniez. Donc il y a des stratégies très ambivalentes où ils ne vous disent pas tout. Donc la position des proches relève d'intérêts et d'enjeux qui ne sont pas en toutes circonstances convergents. Il convient donc de mieux comprendre une relation à la fois paradoxale et incertaine et ne peut être seulement ramenée au principe de l'assistance et du non-abandon. Donc il faudrait analyser ce type de relation, qu'est-ce que ça veut dire être proche et comment la personne arrive à se situer par rapport à une fonction qui est une fonction qui n'est pas que morale, qui renvoie aussi à des interventions, à des gestes. Et j'avais été très frappé dans la première réunion, qui était un workshop organisé par la proximologie. Ils avaient fait venir une femme qui était présidente d'une grande association en Angleterre et qui a dit « Mon mari est atteint d'une maladie évolutive, il est très dépendant, à aucun moment je voudrais être son infirmière. » Je suis prêt à tout pour lui, mais il faut qu'on préserve la dimension d'intimité et de respect réciproque. Ça a l'air de rien, mais c'est ça des éléments à prendre en compte de l'éthique, de la bonne distance, de la bonne présence. Il n'y a pas tout à faire. On voit à quel point on risque aujourd'hui d'instrumentaliser le proche en lui donnant, par exemple, la possibilité d'aspiration, enfin toutes sortes de gestes techniques. Comment maintenir une relation de soins quand on n'est plus dans la toxicité? Les gens qui s'occupent de jeunes handicapés à domicile, enfin toutes ces questions ne sont pas des questions nouvelles, mais encore une fois, c'est des questions qui sont bien posées par la proximologie. Donc c'est pour ça que j'en apporte. On parle de la proximologie qui permet de mieux identifier à la fois l'importance d'une présence aidante, encore une fois on pourrait s'interroger sur le concept d'aide dans ce contexte, et les multiples impacts de la maladie sur ceux qui la vivent plus ou moins directement. De telle sorte que s'impose aujourd'hui une réflexion appliquée aux réalités pratiques de l'accompagnement de la personne malade. Et en fin de compte, la vraie question probablement de la relation de proximité renvoie au concept très discuté aujourd'hui de l'accompagnement. Qu'est-ce que c'est accompagner? Jusqu'où on accompagne, comment on accompagne, qui en accompagne. Il y a toute une littérature extrêmement féconde. C'est pour ça que je vous ai parlé du sida, mais le sida, il intervient dans la société française historiquement entre 80 et 84. Hein, 84, c'est la création de l'association AIDE. Au même moment se développe l'embryon des soins palliatifs en France. Hein. Et donc, la question de l'accompagnement va être posée. Et par exemple, on se pose la question, est-ce que accompagner une personne en fin de vie dans une institution, c'est un travail possible s'il n'y a que les professionnels? On dit non, il peut y avoir les bénévoles. Et quelle est la place de la famille? Et comment on lui permet de maintenir une relation? Et jusqu'où? Et ensuite, le deuil anticipé. participer. En fait, toutes ces questions, toutes les cas s'agitent dans ces années. Il y a quelquefois des sources historiques quasiment qui permettraient d'éclairer cette affaire. Elle ne peut faire l'économie, cette question, d'une approche en des termes politiques, tant le proche ne peut se maintenir auprès de la personne malade que pour autant qu'il bénéficie d'une reconnaissance sociale, de formes concrètes de soutien et donc de solidarité active ou pratique. Et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui même du statut du proche. Hein. De la même manière que vous avez dans la loi du 22 avril la personne qui peut bénéficier d'un congé pour accompagner une personne au terme de son existence, on parle aujourd'hui d'un statut du proche et encore une fois d'une reconnaissance quasiment d'une fonction validée. La même mission que nous a confiée Rosine Bachelot sur 2011, année des droits des patients. Première réaction de mon épouse qui est anesthésiste réanimatrice, tu diras un jour à la ministre qu'il y a aussi le droit des professionnels. Si on veut des droits des patients, il faudrait aussi que les professionnels soient reconnus dans leurs droits. Et dans la discussion qu'on a eue sur la notion de droit du patient, la dimension de solidarité, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, ça va me revenir un instant, parce que chaque fois que je pense à Rosine Bachelot, finalement je dérive pour dire à la fois mon admiration sur les intuitions qu'elle a, mais quelquefois la distance qu'il y a parfois entre un discours intentionnel et une réalité. Enfin, nous a demandé dans notre réflexion d'intégrer la dimension du proche, au même titre que la dimension de la personne malade, notamment dans l'accès aux nouvelles technologies. Je donne juste une parenthèse qui a l'air de rien, mais si on devait faire un arrêt sur image, parce que c'est pas en peu de temps, je vais tout vous dire. Mais l'histoire, vous sortez d'une consultation, vous avez été le proche, on vous a dit telle personne a telle maladie, votre proche, et l'histoire de la recherche sur Internet de la maladie, de l'appropriation d'une connaissance, quand on est seul ou quand on est environné. Quel est le proche? Et donc dans certaines études, c'est pas le conjoint, ça peut être un fils qui a 12-13 ans. Donc la notion de fratrie, par exemple, intervient de plus en plus. Vous savez que vous avez maintenant aussi une approche, par exemple, ça a été lancé à Gustave Roussy, la prise en compte de la fratrie lorsqu'il y a la maladie grave, de façon à ce que les différents cercles de proximité soient pris en compte et que les équilibres fondamentaux d'une famille ne soient pas totalement perturbés et se maintiennent malgré les détresses et malgré l'impact péjoratif de la maladie. La position du proche ne doit pas être confondue avec celle du professionnel de santé, même s'il doit être en capacité de s'approprier les quelques compétences utiles qui contribuent à son engagement. Et j'avais été très frappé au début dans le débat sur le soin palliatif à domicile. On disait, si vous donnez à la personne qui va être proche au chevet d'une personne en fin de vie un certain nombre de connaissances sur des actes techniques pour que la personne, quand elle donne le sentiment de s'étouffer, on lui met un oreiller, en fait, vous verrez que ça se passera mieux et on n'aura pas envie d'hospitaliser la personne aux urgences. Il y a tout un ensemble de petits gestes qui redonnent de l'autonomie et de la liberté. Un point que j'aurais pu dire en matière initiale par rapport à la question d'éthique, vous avez une phrase de Lévinas qui dit, quand il parle de la souffrance, il dit dans la souffrance, il y a une souffrance quand l'issue n'est plus possible, quand il n'y a plus d'ouverture. Et en fin de compte, si j'avais eu à répondre d'un mot, vous m'auriez dit, dites-moi un mot, quelle est l'éthique d'un proche, enfin la bonne présence et d'une certaine manière, la juste présence et la bonne proximité d'une certaine manière, j'aurais dit qu'un proche doit être en capacité de maintenir de l'ouverture et de la liberté dans une relation. Je crois que c'est ça le défi. Parce que finalement, la maladie ampute le socius, tout l'environnement de la personne, de toute sa liberté, de toute son autonomie. Et probablement que s'il y a à soutenir des proches auprès d'une personne malade, c'est en leur redonnant le sentiment qu'une liberté est possible malgré les entraves. Je ne sais pas si c'est très abstrait ce que je dis. Vous arrivez à saisir ce que je veux dire, vous êtes psychiatre, donc vous devez tout comprendre, même ce que je ne dis pas. Mais enfin, l'histoire de la liberté, non, je crois que c'est une question fondamentale, hein, l'histoire de la liberté, redonner un horizon. Ça veut dire que la personne proche ne soit pas arrêtée à la hauteur de la maladie, puisse vivre malgré la maladie, vivre autour de la maladie, se projeter malgré ce que la maladie en termes de responsabilité et, comporte pour elle. Parce que quand je parlais tout à l'heure d'injonction, en tout cas, j'avais mis dans mes mots-clés la notion de responsabilité. C'est-à-dire comment assumer ce type de responsabilité lorsque d'une certaine manière on n'a pas de responsabilité. On trouve vite de la culpabilité dans la position du proche, ce qui explique un certain nombre ensuite de situations très ambivalentes. Donc la notion de juste position que j'évoquais précédemment relève du souci de préserver l'humanité d'une relation en maintenant un lien qui ne soit pas dénaturé, tronqué ou perverti par les contraintes du soin. Donc je dirais que d'une certaine manière, au contraire, la personne proche devrait épargner son proche malade de tout ce qui l'enlise dans la réalité quotidienne de la maladie. Et quand vous allez à domicile, et c'est là les réserves qu'on peut voir aussi par rapport à la démédicalisation, vous avez des maisons, des chambres qui ne sont plus que des lieux médicalisés. Vous avez le lit qui a été le lit de l'amour, le lit de l'émotion, etc., qui devient un lit médicalisé d'une certaine façon, et les traces de la maladie pénètrent jusque dans les interstices de la maison. Donc c'est des questions à prendre en considération. Comment demeurer dans un rapport de proximité quand vous n'êtes que dans un environnement, j'allais dire, dénaturé, dans ce que signifierait une relation naturelle. Voilà, enfin, en tous les cas, c'est des jalons qui sont pour nous des pistes de travail. Lorsque la maladie anéantit ce à quoi on est le plus attaché, il importe d'épargner des espaces d'intimité, de sauvegarder cette confiance si nécessaire dans un contexte de fragilité, ne serait-ce que pour prendre des décisions délicates dont les conséquences s'avèrent déterminantes. Et pour moi, la notion de confiance est importante. Dans un livre que je viens de sortir aux éditions du CERF, qui s'appelle... je trouverai le titre dans un instant. Donc, dans un livre que j'ai sorti, qui s'appelle « L'existence malade », j'aborde la question à qui faire confiance quand on est malade et atteint d'une maladie grave. Donc, comment faire confiance à un proche? Et comment cette relation de confiance se construit ou se dénature avec coup de butoir de la maladie. En tout cas, pour moi, ce mot de confiance est un mot tout à fait fondamental, puisque les derniers auxquels on peut faire confiance, c'est ceux véritablement avec lesquels on a partagé une histoire, avec lesquels on a une mémoire commune. Mais comment faire une confiance à une personne qui ne peut rien? Parce que l'expérience de la maladie et de la déroute de la maladie, pour le proche, c'est aussi l'impuissance. Je réfléchissais souvent à cette expression, quand la personne sort de la consultation, elle dit « t'inquiète pas, on s'en sortira ». Mais on peut le dire un certain temps, et puis à un moment donné, non seulement on s'en sort pas, mais personne ne s'en sort. Donc c'est des questions, en tous les cas, à prendre en considération dans nos réflexions. Donc, dans un contexte de fragilité, ne serait-ce que pour prendre des décisions délicates dont les conséquences s'avèrent déterminantes. Et c'est vrai, dans la relation de proximité, vous avez des moments emblématiques extrêmement péjoratifs et difficiles, c'est la prise de décision. La responsabilité de participer à une décision pour l'autre, d'une certaine manière, en essayant de trouver malgré tout une certaine distance, une capacité d'analyse, une capacité de distinction de ce qu'on doit privilégier, c'est pas si simple. Et ce que nous avons observé, c'est que le fait de partager la décision, de participer à la décision, quelquefois, altère totalement la relation de confiance et la situation de l'un par rapport à l'autre. Donc il y a des contaminations, des cercles de contamination. Et probablement que si on a développé une réflexion éthique sur la proximalésie, c'est en anticipant tous les risques auxquels le proche risque d'être confronté et qui dénaturerait une relation de proximité lorsqu'elle est considérée indispensable. Le proche est en quelque sorte garant de la persistance d'une sphère privée et de cette exigence de liberté, peut-être d'autonomie, qui apparaît comme une forme de résistance à ce qui risque de bafouer l'identité et la dignité de la personne malade. Alors, je ne vais pas développer le concept de la résistance parce que c'est un concept qui a l'air facile. Je l'évoque aussi dans ce petit travail aux éditions du CERF. Mais c'est vrai que... Quelle est la posture de résistance du proche? Je donne juste un exemple. La notion en fin de vie du lâcher prise. Vous avez des situations très paradoxales pour le proche qui aurait envie. Quelquefois, il n'a pas envie. Quelquefois, il a envie que ça se termine vite. C'est tout le débat sur l'euthanasie quand c'est le proche qui est plutôt poussé à l'euthanasie alors que le malade aimerait plutôt vivre. Mais ça, c'est des débats qu'on peut avoir. On est en pleine actualité sur la dépénalisation de l'euthanasie en France. Mais il y a des situations extrêmement difficiles. C'est l'acceptation du proche qui est quelquefois sollicité par la personne malade, si elle est prête, le proche est prêt à accepter la mort d'une certaine manière de son proche. Je ne sais pas si je le dis clairement, mais dans bien des circonstances, la proximité expose le proche à témoigner. J'en discutais encore avec quelqu'un qui travaille à l'espace éthique hier, qui a sa sœur qui est très malade, et qui disait, elle allait en Italie la voir, peut-être qu'elle me posera la question, est-ce que ça vaut encore le coup de se battre pour essayer de savoir comment je me situe? C'est-à-dire, il y a tout un ensemble d'éléments qui paraissent anodins, mais qui dans le quotidien, au débeauté, sans qu'on s'y attende, peuvent faire que la personne malade se maintiendra plutôt du côté de la vie que dans une situation ou dans une posture où elle laissera tout aller. Et il y a une vraie responsabilité, puisque certains proches me disent j'ai peut-être pas été assez désirant, j'ai pas été assez présent pour que mon proche ait envie d'aller plus loin. Je donne peut-être les choses d'une manière maladroite, mais pour dire dans la tessiture de la relation, la complexité de se trouver en position, encore une fois, il y a quelques années, on en discutait déjà en réanimation avec Maurice Rapin, qui était chef de directeur de réanimation Henri Mondor, c'était là où je faisais mes premiers stages, finalement, de philosophie. Et il disait, moi je n'associe absolument aucun des proches à la prise de décision. Voilà. Donc ça c'est radical. Alors maintenant il faut voir la compatibilité de sa position par rapport à la loi aujourd'hui, où il y a des personnes de confiance. Et ce qui complexifie la chose sur le terrain aujourd'hui, c'est que vous avez le proche de première ligne qui a accompagné son malade pendant des années, et qui a une espèce de connivence à la fois avec son malade et avec l'équipe, et ils savent jusqu'où on doit aller, et il y a quelque chose dans le non-dit, puis aussi des arguments qui sont construits à travers les années. Mais vous avez aussi le proche, c'est symboliquement la fille qui était aux États-Unis, qui ne s'est pas préoccupée de ses parents, et puis qui apprend que son père ou sa mère est en fin de vie, qui arrive au dernier moment, et qui n'accepte pas que son père ou sa mère meure, et qui considère que tous les autres ont tort, et sont dans des attitudes moralement incontestables, qui va d'ailleurs jusqu'à saisir quelquefois, parce qu'il y a des magistrats ici, ou en tous les cas des avocats, le procureur de la République en disant que face à une personne vulnérable, il demande une espèce d'arbitrage. Tout ça pour vous dire la complexité. Il y a le proche lointain, en tous les cas, qui n'a pas véritablement souhaité être proche, parce que c'était trop difficile, c'était trop délicat, et qui, au moment donné, pris, alors je ne sais pas si c'est une culpabilité, en tous les cas, je ne sais pas si c'est la culpabilité, en tous les cas, d'un sentiment qu'il ne faut pas abandonner totalement, arrive et puis déstabilise tout. Je pense que c'est des expériences auxquelles vous êtes confrontés d'une manière quotidienne. La juste position consiste également à savoir prendre position en référence à des valeurs forgées et partagées au cours d'une existence avec cette personne que la maladie peut entraver dans sa faculté de faire valoir ses préférences et ses choix profonds. Et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement important, nous qu'on a beaucoup travaillé sur la fin de vie, c'est-à-dire avoir autour de soi ses proches, c'est avoir aussi des personnes qui seront transmetteurs de notre mémoire, c'est-à-dire à déposer à ces personnes quelque chose qui nous est précieux au moment où on sait que la vie va nous quitter. Mais avoir des proches aussi, c'est avoir, je parlais de résistance, des défenseurs, notamment lorsque vous êtes, et ça nous arrivera peut-être aux uns aux autres, on vous annonce une maladie neurodégénérative qui affectera votre pensée, votre faculté de jugement, etc. Par exemple la maladie d'Alzheimer, mais il y en a d'autres, les cœurs de Lewy et autres, et de savoir que vous pourrez vous remettre à vos proches, c'est-à-dire qu'ils sauront assumer et prendre la décision juste, c'est quand même plus rassurant que de se dire malheureusement on ne peut pas leur laisser assumer cette responsabilité, ils en sont incapables et on ne veut pas leur faire ce mal. Donc c'est des éléments qui se construisent pas uniquement dans la maladie, mais qui se construisent dans une histoire de vie. Et on voit à quel point l'histoire de vie risque d'être abrasée par une expérience de la maladie, surtout la maladie qui dure. Quand c'est la maladie, j'allais dire, qui évolue très rapidement, c'est une chose, quel que soit le côté dramatique. Quand c'est l'accident, c'est une chose. Mais on va être de plus en plus confronté, malgré tout, à la maladie chronique, c'est la maladie qui dure. On s'enlise, on perd en dignité, on perd en citoyenneté. Et certains vous parlent même, quand ils sont atteints de ces maladies, d'euthanasie sociale. On en discute souvent avec des professionnels. Quand une personne malade n'a plus comme horizon que sa sortie mensuelle pour aller au service hospitalier faire un contrôle, on peut dire aussi à quoi bon cette vie. C'est là que vous avez des malades et des familles qui vous disent « j'ai le sentiment que sa mort ou ma mort est préférable à ce que je vis ». C'est là où les gens prennent leur carte pour l'association pour le droit de mourir dans l'indignité. Même si quand ils se retrouvent à l'hôpital et qu'on leur dit « on arrête tout », ils ont plutôt envie qu'on continue. C'est l'histoire du stop et encore en situation. Juste un point d'ailleurs qui est un point éthique pour lequel on est très investi aujourd'hui, c'est la notion de directive anticipée. Vous savez que maintenant la législation vous donne la possibilité de rédiger vos directives anticipées. Alors vous avez toutes sortes de possibilités et une question qui se pose, donc vous voulez décharger le proche de toute responsabilité, d'où vous allez rédiger votre directive anticipée. Comment anticiper des situations inanticipables, impensables, et est-ce qu'on peut être certain qu'au moment où on sera vraiment en situation, ce qu'on a anticipé est véritablement ce qu'on souhaitera. Vous voyez l'énigme pour les personnes qui ne pourront plus s'exprimer. Par exemple, les personnes atteintes d'Alzheimer. Il me reste encore combien de secondes? Ça, j'avance un peu. Quand, je ne vais pas vous faire comme on était au congrès de soins palliatifs à Marseille, et un intervenant plus loquace que les autres qui a dit « la première personne qui baille, j'arrête ». Voilà. Donc à chaque fois, il disait « personne ne baille », etc. Donc n'hésitez pas, ça sera un signal qui sera pour moi absolument réceptif. Mais non, il ne doit pas être instrumentalisé, je l'évoquais, il convient de prendre en compte ce qu'il souhaite et ce qu'il peut. C'est là où on ne peut pas idéaliser, vous savez, on héroïse aujourd'hui à la fois la figure de la personne malade, qui peut tout, qui veut tout savoir, qui veut décider. Bon, c'est toute la question de l'autonomisation qui s'est développée dans les années SIDA, vous savez, c'était le débat entre paternalisme médical et autonomie de la personne. Là, on est dans une autonomisation qui est devenue extraordinairement péjorative pour les personnes les plus vulnérables. C'est un sujet sur lequel on pourra débattre, mais en tous les cas, c'est la conséquence de la loi du 4 mars. Il convient de prendre en compte ce qu'il souhaite, ce qu'il peut, sans exercer la moindre contrainte et lui imposer des tâches insupportables. Alors peut-être qu'on l'évoquera, mais on voit par exemple dans les familles comment se répartissent les fonctions des proches. Et souvent, vous savez, Martine Aubry, que vous connaissez bien ici, a eu la sagesse bien inspirée de parler du care. Donc toute la culture du care aujourd'hui qui fait fleuresse et qui permettra peut-être de déterminer les électeurs aux prochaines élections. Mais de plus en plus, le care, le proche, c'est l'approche. D'accord. Et l'approche, encore une fois, particulièrement vulnérable, c'est celle qui n'a pas le choix. Donc, vous avez des termes, la pièce rapportée, enfin, il y a tout un ensemble, toute une littérature là-dessus. Nous avons la chance, à l'espace éthique, d'avoir une doctorante, Lucie Blanche Miamioni-Nunca, qui nous fait un travail de doctorat qu'elle va soutenir cette année sur la question de la personne âgée vulnérable en Afrique, et qui nous a raconté que en Afrique, c'était une société traditionnelle où on disait on n'abandonne pas ces vieux, les choses sont un petit peu différentes aujourd'hui, et les gens regardent aussi Internet. Et même au Congo, la première structure d'institutionnalisation pour personnes âgées qui a été ouverte pour dire comment la culture, la mondialisation peut pénétrer des cultures avec leur sensibilité. Mais ce qu'elle faisait comme observation au cours d'une rencontre, c'était de dire que ça peut être valorisant pour une personne qui est méprisée dans la famille que d'être le proche qui va accompagner une personne âgée malade. Et toute la famille se cotise et ça lui donne une fonction, une reconnaissance sociale. Tout ça pour dire que ne prenez pas mes propos d'abord pour très intéressants, ils sont un petit peu rapides, mais ne prenez pas mes propos comme dogmatiques ou trop assertotiques. Je crois que tout est très ambivalent en matière d'éthique. Et ce qui paraît paradoxal pour l'un peut ne pas l'être pour l'autre. Ce qui paraît contestable d'un côté peut l'être différemment, d'une autre manière, d'un autre côté. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on nous expliquait effectivement qu'une personne très marginalisée dans une famille pouvait trouver une centralité, un statut, une stature, justement en étant le proche, c'est-à-dire en étant valorisé par un acte de solidarité qu'elle investit au nom de la famille. L'impact d'une maladie au long cours sur l'aidant est tel qu'il développe parfois lui-même des pathologies liées au peu d'attention qu'il peut consacrer à son état de santé ou à la précarité de ses conditions d'existence dans un contexte confiné, voire pathogène. Et c'est vrai, la vie, vous êtes majoritairement des psychiatres, on voit avec les tutelles qui vont à domicile pour des personnes qui restent dans leur appartement, dans leur studio, c'est une vie souvent très délétère et solitaire d'une certaine façon, et quand on est le proche de cette existence, on est aussi marginalisé. C'est là où, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, en matière d'Alzheimer, c'était un modèle qui s'est développé au Canada du baluchonnage. Et je crois que c'est d'ailleurs repris en France, mais il y a des problèmes de statut, enfin des problèmes de droit du travail qui se posent. Mais on peut poser de plus en plus cette question de relais. Bon, il y a tous les séjours répi, les structures répi, mais il peut y avoir aussi du relais à domicile qui permet aux proches de retrouver un peu de liberté, de revivre quand même sa vie. Et en sachant que des professionnels compétents à domicile, dans le contexte, dans l'environnement auquel la personne est familier, vont assister pendant un temps donné. Le chenage, ça peut être une grande semaine. J'estime donc que la prise en soin de la personne malade dans son contexte d'existence justifie une attention particulière accordée cette fois à la notion d'aidant. J'ai pas mis de proche. Il convient de l'accompagner dans son cheminement souvent douloureux et de l'assister afin de lui éviter une implication sans limite, un engagement désespéré, éprouvé comme une spirale infernale qui engloutit ses ultimes ressources morales, physiques, voire financières. Encore une fois, s'il y avait eu qu'un élément... je suis comme Colombo, je cite toujours ma femme, elle me dit si tu interviens en matière d'éthique, explique ce dont tu parles quand tu parles d'éthique. Donc je n'ai toujours pas dit ce dont je parle quand je parle d'éthique, mais la question des limites est tout à fait fondamentale en matière d'éthique. C'est-à-dire comment s'inscrire dans un champ avec des limites permet de circonscrire une responsabilité. Et c'est vrai que souvent le proche, encore plus s'il est solitaire, s'il est dans un contexte de déliaison, souvent le proche s'imputera une responsabilité limitée et à laquelle finalement il ne survivra pas, parce que finalement c'est mission impossible. C'est l'histoire de l'infirmière qui rentre le soir chez elle avec l'obsession de ses malades. Si à un moment donné il n'y a pas rupture, s'il n'y a pas autre chose, une alternative, la personne se consume avec ses malades, elle n'est plus en capacité d'agir. L'aidant doit s'autoriser des temps de répit, cette possibilité de passer le relais ne serait-ce que le temps d'une pause. Il importe donc de développer et de maintenir auprès de lui un réseau de soutien affectif et effectif auquel s'en remettre pour éviter le poids de décision solitaire. Encore une fois, j'insiste sur la notion de décision, je crois que ce qui doit être le plus abrasif pour une personne, le plus mutilant, c'est de se sentir non pas comptable, mais coupable d'une décision. Mais je sais pour l'avoir constaté ce que peut représenter le sentiment de négliger ou d'abandonner l'un des siens faute de ne plus s'y consacrer intégralement. Il convient donc de mettre en œuvre des stratégies de précaution afin d'atténuer les meurtrissures qui entaillent profondément, y compris lorsque l'on estime avoir tout fait pour l'être cher, sans éviter pour autant le pire qui laisse impuissant et parfois même inconsolable. Et de plus en plus d'ailleurs dans l'approche du proche ou des quelques proches qui restent fidèles malgré la maladie ou malgré la tentation de déserter, de fuir, il y a toute l'anticipation de ce à quoi le proche va être confronté. Notamment, et ça pose des questions éthiques, la notion du deuil pathologique. Hein. Et pourquoi ça pose des questions éthiques? Parce que est-ce qu'on peut parler de deuil pathologique? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Vous avez, par exemple, on a eu une discussion intéressante avec l'équipe de la chambre mortuaire de la Pitié-Salpêtrière, puisque dans certains services, le cadre ou l'infirmière disait à la famille, avant que la personne soit morte, vous devriez prendre contact avec la chambre mortuaire. Ce qui posait une question, d'une certaine manière, très ambivalente, parce que ça peut être aussi intéressant pour les familles qui ont l'obsession de savoir comment ça se passait, d'être accueillies par une équipe qui est finalement une équipe de soignants et qui montre que les choses sont plus simples. Enfin, il y a une espèce de continuité du soin, parce que nous, on développe avec les chambres mortuaires le travail, le soin jusqu'au bout. Hein. C'est aussi une partie du soin et c'est aussi le soin de la personne qui est proche d'un défunt, qui est endeuillé. Donc oui, c'est des questions qu'on a posées. Tout ça pour vous dire que nous, on n'est pas comme à la Cato de Lille où ils font de la grande éthique. Nous, on fait souvent d'éthique d'en bas, très basique et très proche du terrain, qui quelquefois incite certains à dire « Mais est-ce que c'est véritablement de l'éthique que l'on fait ?» Vous irez... c'est Furet du Nord, la grande librairie. Donc allez fin du mois au Furet du Nord chercher notre traité de bioéthique en 3 tomes, 170 auteurs, 1800 pages. Il y a d'ailleurs 4 personnes de Lille qui ont participé, plus d'autres personnes pour le traité de bioéthique. Vous verrez que même si on fait l'éthique d'en bas, de temps en temps aussi on fait des traités de bioéthique. Ça sera en collection de poche, 19,50, donc vous pourrez vous l'acheter pour Noël. Il me reste encore 2 minutes ou juste ou pas? Voilà, non, pour qu'on ait un échange. Hein. Parce que je sais que les psychiatres, ils écoutent beaucoup, mais la valeur de leurs propos est importante. Voilà. Oui, je prendrai mon petit 1-2. Il conviendrait donc de se demander comment devenir suffisamment proche d'une personne sans pour autant, et ça c'est une vraie question éthique, la spolier dans sa part intime. C'est l'histoire du trop proche, voilà, d'une certaine façon. Sa sphère privée. De quelle manière envisager une approche qui consiste davantage à toucher, à atteindre la personne qu'à l'enserrer dans un réseau qui affecterait son autonomie? L'énigme d'une relation sans fusion ou confusion, et c'est là où l'histoire de la confusion des genres, notamment entre le proche et les professionnels, souvent pose des vrais problèmes. Et vous voyez très très bien, quand vous entendez des proches qui ne sont pas des professionnels de santé, s'investir au point de n'avoir plus qu'un vocabulaire paramédical, hein, ou de parler du malade non plus comme son mari, sa femme, mais comme d'un malade, c'est-à-dire dans une technicité à la fois de la pensée, qui peut être aussi protecteur, enfin je veux dire, comme d'une démarche. En tout cas, tous ces éléments, encore une fois, sont à mettre dans l'analyse de la complexité de la question du proche, vu d'un point de vue éthique, quand la personne n'a même plus le sentiment d'avoir la liberté de toucher l'un des siens. Et que le malade est souvent devenu un intouchable, enfin je veux dire, quand il est atteint d'une maladie qui altère son corps, qui génère un certain nombre de dysfonctionnements et qui le rend finalement très étranger et quasiment assimilé au futur mort qu'il sera. L'énigme d'une relation sans fusion ou confusion semble nous confronter à la question éthique suscitée par l'approche entourante de la personne malade. Dès lors qu'on reconnaît celle ou celui qu'on cherche à assister, comme absolument autre, la difficulté tient pour beaucoup à la faculté de le maintenir dans une position à certains égards distante et singulière. Et c'est là où je cite Emmanuel Lévinas, hein, je sais que tu cites beaucoup Emmanuel Lévinas, chez nous c'est un philosophe qu'on cite beaucoup, il est mort l'année de création de l'espace éthique de la PHP, en 1995, à la PHP. Et donc dans Autrement qu'être et au-delà de l'essence, il a cette petite formule, donc, en parlant de cette relation de proximité qui ne le dépouillerait pas de son altérité exclusive. Voilà. Enfin, vous regarderez ces pages 137 de Autrement qu'être, de ne pas dépouiller l'autre de son altérité exclusive. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours sur Lévinas, vous pouvez toujours vous inscrire à l'espace éthique. Il y en a qui l'ont fait et qui ne regardent pas tout à fait. Qu'en est-il dès lors de la signification pour le moins peu évidente ou difficilement recevable de cette exigence de fraternité à laquelle nous confronte la personne malade? Concevoir notre position de proche à son service, plus qu'à ses côtés, c'est la distinguer dans sa dignité, lui reconnaître un espace propre que rien ne saurait compromettre. Je crois que ces notions d'espace, d'intimité, de relation sont à véritablement penser. Il y a toute une matière au niveau philosophique pour conceptualiser et puis ensuite transposer dans la pratique. Bon, je vais terminer le proche et le fidèle. En tout cas, c'est la définition que je lui donnerai. Celui qui ne déserte pas et n'abuse pas pour autant d'un pouvoir ou d'une autorité à la mesure de la détresse ou de la vulnérabilité éprouvée par la personne malade. Vous êtes proche car attentif à l'autre, en ce qu'il est et demeure, en dépit de ce qui affecte son autonomie, voire son existence même. On a fait, il y a 2 semaines, la formation des aumôniers, les rabbins aumôniers dans les hôpitaux français. Donc on a lancé un séminaire de formation sur 3 jours. Et on m'a cité dans un texte de Maïmonide sur la fin de vie, la personne qui a dans son intention le sentiment que son proche est déjà mort, c'est comme si elle était responsable de sa mort. Et souvent, le proche, s'interrogeant, on pourrait s'interroger sur comment bien faire dans un contexte de cette nature, mais souvent il a l'impression que le bien faire, ce serait plutôt que son proche disparaisse assez rapidement. Parce que tout ce qu'il y a à attendre de la vie n'est qu'en négatif et en perte, en deuil, en sacrifice. Donc oui, c'est question qui se pose. C'est pour ça que je disais dans ma petite phrase, donc voir son existence même. Cette vigilance témoignée à l'autre lui confirme son identité, son rôle propre, et le reconnaît dans une qualité humaine qu'aucune circonstance ne devrait lui contester. Vous regarderez d'ici le 10 décembre notre site Espace Éthique Alzheimer, et on a mis en citation Princeps quelle que soit la maladie et l'altération, la personne doit être reconnue dans cette identité. C'est un peu ça, le proche est peut-être la personne qui peut incarner ça et le confirmer de regard à regard dans un quotidien, même s'il est fait de beaucoup de banalités quand on est dans la maladie, mais dans un quotidien qui se maintient, de permettre à la personne à la fois d'avoir le sentiment d'appartenir, d'être reconnue, d'exister, et également d'avoir un devenir, même si ce devenir lui survivra. Telle est peut-être cette exigence de fraternité qui permet de situer nos obligations morales et sociales à l'égard de la personne malade, mais aussi de ses proches, en termes d'engagement conçu, comme autant d'égards et de signes de respect qu'incarne une conception humaine et fraternelle du soin. Le proche est celui qui exprime une manière d'être présent dans la distance et la retenue, de telle sorte que puisse apparaître un espace de rencontre reconnu par chacun comme possibilité de vivre la vérité et la liberté d'une relation. Alors là aussi, on pourrait développer toutes les personnes qui sont ici travaillant en réseau avec vous. Enfin, vous avez les emails. D'accord. Donc, je vous donnerai, si ça vous intéresse, un texte que je vous adresserai pour les personnes qui ont un peu de temps à passer à lire nos réflexions générales. Mais encore une fois, c'est des réflexions qui sont enracinées dans une réalité très très concrète du soin. La vérité et la liberté de nos relations, je vous ai parlé du concept de liberté, mais c'est vrai que ce qui dénature le plus la relation, c'est la mise en cause de la vérité. De quelle vérité est-il question quand on est confronté à ce que serait la vérité de la mort, à la vérité de la souffrance, enfin toutes ces vérités très complexes dans la maladie et quelle est leur dimension d'humanité, d'acceptabilité. Donc nous voilà renvoyés à nos capacités sociales de vivre ensemble, de vivre avec et auprès des plus vulnérables parmi nous, la personne malade. La maladie grave destitue trop souvent la personne malade et ses proches d'une position sociale attachée à une reconnaissance explicite et à des droits intangibles. L'entourage tente de gravir souvent avec difficulté le versant d'une montagne dont, fort paradoxal, l'ascension les sépare de la communauté humaine qu'ils observent dès lors avec consternation. Penser les positions de l'entourage dans la maladie, c'est admettre de reconsidérer nos responsabilités à l'égard de la personne malade en des termes de solidarité pratique et donc de volonté politique. On ne peut être proche de manière solitaire. Voilà. On ne peut être proche de manière solitaire. On ne peut entourer sans être soi-même entouré. Sommes-nous aujourd'hui en capacité, et je terminerai là-dessus, hein, mon temps est imparti, on peut commencer la discussion parce que je peux encore lire pendant quelques minutes. Hein. Mais il vaut mieux que j'arrête. Sommes-nous aujourd'hui en capacité à la fois d'entourer et d'être proche? Une telle question incite à penser la dimension politique de la maladie, mais aussi la relation personnelle et collective que l'on doit se construire auprès de ceux qui espèrent une présence active maintenue à leur côté. Voilà, j'ai fait mon petit... J'allais dire, j'ai respecté un engagement, j'ai abordé le point 1. Et là, on peut commencer la discussion ou pas? Voilà. Et merci de votre attention.